Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque, elle marque son époque.
Dans la
boum
poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Priscilla Ludowski.
Au sein du mouvement, j'évolue beaucoup avec des hommes. Donc trouver sa place, voilà, c'est ça va, je on va dire que je m'en sors. Mais je lâche rien, je suis obligée de temps en temps de mettre autre chose qu'un utérus. J'ai des fausses couilles que je me greffe à chaque fois quand je veux me faire entendre.
Sortir. Marcher. Brandir des pancartes. Lever les poings. Crier. Protester. Contester. Refuser. Persister. S'unir. S'élever. Se soutenir. S'allier. Être gazé. Être frappé. Être ignoré. Recommencer. Avec Priscilla Ludowski, on a parlé de démocratie, de résistance et d'écologie. Priscilla Ludowski, vous êtes entrepreneuse et militante et vous êtes à l'origine de la pétition contre la hausse des prix du carburant qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes il y a tout juste un an. C'est quand même assez fou, vous avez lancé les Gilets jaunes quoi. Alors cette pétition très précise, très détaillée que vous avez rédigée et partagée sur change.org en mai 2018 a récolté à ce jour 1 200 000 signatures. Elle continue encore à être signée, c'est l'une des plus soutenues jamais lancées sur la plateforme. Et elle a été l'étincelle de cette lutte sociale inédite qui a mobilisé des Françaises et des Français sur tous les ronds-points de France pendant un an. C'est vous qui avez lancé l'appel à manifester et vous étiez en première ligne le 17 novembre 2018 lors du premier rassemblement officiel des Gilets jaunes à Paris. Il a réuni, selon la police, 300 000 personnes, plus proche d'un million selon les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette date du 17 novembre 2018 ?
Pour moi, c'était assez inattendu. Parce que quand on lance une pétition, on a un cheminement un petit peu à suivre pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi on lance cette pétition. Parce que quand on partage sur les réseaux sociaux, on partage qu'un lien. Les gens sont attirés ou pas par le titre. Et après, il faut qu'ils aient la curiosité de cliquer dessus pour aller voir ce que vous dites. Et puis moi, j'en avais mis quand même un pavé.
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à les détailler. On va y revenir, mais c'est passionnant en fait.
Donc voilà, c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à balayer un peu, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc ils veulent aller au plus vite, puis sûrement ce sont des personnes qui lisent ça dans le train, ou rapidement au petit-déj, je sais pas, mais en tout cas, faut passer le cap de lire le contenu, et ensuite, on se dit pas que, effectivement, ça irait aussi vite entre le moment où c'est partagé, et puis ensuite, le moment où ça passe par les médias, et puis ensuite, le moment où on se mobilise. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de temps, habituellement, pour que ces trois grandes étapes-là, elles se mettent en place. Mais là, ça a été hyper rapide, quoi. Moi, je l'ai vraiment partagé dans les médias tout le mois de septembre. En octobre, on a commencé à tous se mettre en lien. Et en novembre, on démarrait, quoi. C'était très, très, très rapide, très intense. Pas beaucoup de temps pour réfléchir à faire les choses peut-être mieux, mais en tout cas, ouais, c'était assez inattendu cette date. Elle restera gravée du coup.
Bah ouais, elle est importante, et puis on célèbre bientôt, enfin là, au moment où on se rencontre, on est le 4 novembre, c'est votre anniversaire d'ailleurs, bon anniversaire.
Merci.
et quand on regarde les vidéos, tous les reportages qui racontent ce moment vraiment unique hein, dans l'histoire des mouvements sociaux en France, on entend beaucoup le mot révolution, il est très volontiers employé par les personnes qui manifestent ou qui bloquent. Vous parlez plus volontiers de mouvement, j'ai remarqué. Quel est le mot juste pour désigner les Gilets jaunes, selon vous ?
Moi, je dirais que c'est une expression collective de la colère qui est enfouie. Alors, c'est pas un mot, c'est plutôt une longue phrase, mais c'est difficile de poser un mot là-dessus parce que ça dépend en fait à quel stade chacun est intérieurement. Il y a des personnes qui, depuis des années, encaissent pas mal de choses, donc ils en sont à un stade où pour eux, c'est une vraie révolution d'avoir des gens dans la rue qui manifestent. et d'autres qui sont bah, comme moi, qui moi j'avais jamais milité avant. Donc pour moi voilà, je rentre dans quelque chose dans un mouvement de contestation en fait. Et j'associe personnellement beaucoup le mot révolution, malheureusement peut-être à des actes un peu plus poussés, parce que par rapport à l'histoire. Mais voilà, c'est peut-être une mauvaise idée que je me fais de la révolution. Peut-être que c'est un terme que je projette beaucoup trop loin en matière d'action, mais peut-être que c'est déjà une révolution que d'aller dans la rue ensemble. Après, c'est moi qui vois quelque chose de plus poussé. Hein, mais
ça peut être aussi une révolution intérieure, comme vous le dites aussi pour beaucoup de personnes. C'était la première mobilisation. Beaucoup de personnes dans des zones rurales, par exemple, exactement, qui pour la première fois exprimaient des idées politiques publiquement. C'est une révolution déjà personnelle.
C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que voilà, moi, je n'avais pas qualifié ça de cette manière-là. Mais effectivement, à différentes échelles, ça peut être qualifié comme ça. Ouais.
Alors, en tant que fondatrice de ce mouvement, vous avez aujourd'hui une visibilité médiatique hyper forte. Vous avez donné il y a quelques jours une interview au prestigieux journal britannique, le Financial Times. Vous avez une bio Wikipédia qui n'existe qu'en anglais.
Ouais.
C'est vraiment très surprenant. Comment vous vivez cette visibilité internationale que vous a donné ce rôle ?
Pareil, ça a été très rapide. J'ai pas eu le temps de peut-être me préparer ou de m'exercer à faire des plateaux, des choses comme ça. Pas du tout, ça a été vraiment rapide. Une fois que la pétition a été peut-être communiquée par pas par la radio locale mais par la presse, par Le Parisien.
C'est Le Parisien voilà. Qui a déclenché un peu le...
À ce moment-là, ouais, ça a été très rapide, j'ai même pas eu le temps de réaliser. Donc il a fallu tout de suite se prendre son courage à deux mains et dire bon, t'as dénoncé quelque chose dans ta pétition, maintenant faut aller défendre ce que tu dénonces par écrit, et pour ça faut se confronter aux gens qui sont pas d'accord, ou alors même à ceux qui sont d'accord mais qui ont des questions. Enfin, tout de suite, il fallait être prêt, en fait. Et ça, on n'y est pas préparé, non.
Mais c'est une responsabilité que vous avez envie d'endosser, vous pouviez pas reculer, en fait.
Non, je considérais que je pouvais pas reculer dans le sens où... Alors, on peut toujours faire marche arrière, mais je trouvais ça dommage, parce qu'il y a les personnes qui avaient signé jusque-là, je considérais qu'ils avaient mis une certaine confiance en moi pour aller jusqu'au bout, que l'idée, c'était pas juste de dire quelque chose, de coucher quelque chose sur le papier, et puis juste de rentrer chez soi, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai l'opportunité de dénoncer tout ça au grand public, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas accès au grand public en fait. On a accès au grand public dans son quotidien quand on discute et qu'on échange avec les collègues, la famille, les amis, mais après pour faire passer les messages et essayer de faire en sorte que les gens se questionnent, là on n'a pas du tout d'outils en fait. Et le seul outil c'était les médias traditionnels, parce que tout de suite ça parle au plus grand nombre et que l'impact est beaucoup plus important. Et pour moi non, je voulais pas reculer à ce moment-là, parce que d'ailleurs j'avais vraiment envie d'avoir cette confrontation aussi.
Cette fenêtre d'expression.
Ouais, exactement.
Vous dites souvent « on ne m'attendait pas ». Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites ça ?
Sur divers tableaux, je pense qu'on ne m'attendait pas, tout simplement parce que je ne fais pas de politique. Souvent, l'espace médiatique est occupé soit par des historiens, des politologues, des politiques, rarement par un citoyen, en fait, tout court, qui n'a pas d'aspiration politique, je voulais dire. Ou qui n'a pas été mandaté par un collectif ou une association. Donc je pense que déjà rien que ça, c'était assez inattendu. Après peut-être en tant que femme aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'expriment, que ce soit dans les médias ou même dans toute la société en général, alors que dans le mouvement des Gilets jaunes, on a vu beaucoup de femmes s'exprimer. Et si vraiment il y avait la même proportion dans les médias, dans les écoles, dans le boulot, et si cet espace-là avait été aussi plus accessible pour les femmes, on serait beaucoup plus présente. Et je pense que même en ça, je pense que personne et peut-être ne s'y attendait non plus. Puis en tant que femme noire, donc encore plus, en poussant encore plus loin. Donc voilà, donc je pense que ces trois tableaux-là, c'était assez inattendu, je pense. C'est mon avis, je sais pas.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis j'ai même lu qu'il y avait aussi une confusion, parce que c'est vrai que votre nom, Ludowski, il renvoie pas à vos origines de martiniquaises. On peut vous croire plutôt polonaise.
Ouais, c'est polonais.
Et quand les gens voyaient votre visage, ils étaient souvent surpris.
Oui, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi, effectivement, je pense qu'on s'en... Mais ça m'a... c'est toute ma vie, du coup. Depuis l'école, à chaque fois, on s'attend pas. Mais effectivement, c'est un nom polonais et j'ai pas été ni adoptée, c'est pas mon nom de femme mariée ou quoi que ce soit, non. Non, ça remonte à très très loin.
Vous étiez un peu la surprise du mouvement des Gilets jaunes. Une heureuse surprise, et je suis très très heureuse que vous soyez là aujourd'hui.
C'est gentil.
Alors, dans La Poudre, on essaye de remonter un peu, d'aller en arrière pour comprendre le parcours, comment les femmes qui font la société aujourd'hui sont devenues ce qu'elles sont. Donc, on va remonter en arrière ensemble, si vous le voulez bien. Priscilla Ludowski, vous avez grandi à Villiers-le-Bel dans le 95. C'était comment de grandir dans ce quartier ?
Alors c'était assez classique entre guillemets, hein, voilà. Moi je suis à 14 ans, j'ai bougé de Villiers-le-Bel pour aller ensuite à Goussainville, puis après à Brétigny, puis après dans 77. Donc j'ai beaucoup bougé, j'ai toujours été élevé en banlieue. Mais commencer de vivre là-bas, c'est pas forcément facile, parce qu'en banlieue, on vit beaucoup de choses. Moi, je disais que c'est pas la première fois que j'avais goûté au gaz, hein. J'y avais goûté déjà au collège. Et en fait, on s'en rend pas compte. On n'en discute même pas avec les parents à l'époque, en fait, parce que c'est tellement la routine, malheureusement. Quand il y avait des bagarres d'ados, parce qu'en fait au collège voilà on est jeunes, ça se réglait à coups de gaz quand la police venait, alors que ce sont pas des guerres de gangs, quoi. Enfin, je veux dire, et en fait en voyant tout ce qui se passe dans le mouvement, on se rend compte qu'on a accepté beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses en fait, mais qu'on n'est pas assez conscient de ce qui n'est pas normal quand on est aussi jeune. On s'accommode de ce qui se fait et puis c'est tout.
C'est ça, c'est la réalité telle qu'elle présente tous les jours à nous et on ne la questionne pas.
Exactement, quoi. Exactement. Donc ça c'est pour les parties un peu plus sombres. Mais en dehors de ça, j'ai tout appris en banlieue, quoi. J'ai pas eu d'expérience extraordinaire. Voilà, j'ai eu un parcours scolaire classique. Voilà, j'ai fait du commerce et de la communication, puis ensuite j'ai fait un BTS commerce international. J'ai été au lycée à Sarcelles, puis à Brétigny, puis à Brie-Comte-Robert, puis à Savigny. J'ai trois lycées différents. Enfin voilà, j'ai énormément bougé et j'ai appris dans tout ce que j'ai fait, et puis l'expérience des parents aussi. Petite période difficile, mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans, donc on a beaucoup bougé, on a été sans domicile fixe, en famille, donc c'était pas facile, mais bon, voilà, il y a des parcours aussi comme ça qui forgent un peu, donc voilà.
Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? Quel type d'éducation vous avez reçu?
Ça, essayer de se débrouiller par soi-même, ça c'est... Voilà, aussi la fraternité, parce que voilà, j'ai des frères et sœurs, et essayer de se soutenir les uns les autres, la solidarité, forcément... Et puis beaucoup d'autonomie. J'ai été autonome très tôt. Donc ça, c'est un des points phares de mon éducation, ça. C'est de savoir faire les choses par soi-même et se débrouiller. Et même si on sait qu'on peut avoir de la solidarité, que ce soit au sein de la famille ou des amis ou autres, mais toujours apprendre à rebondir et à retomber sur ses pattes, quoi.
Eux-mêmes, ils étaient arrivés en métropole de Martinique très peu de temps avant votre naissance, dans les années 80.
Ouais.
C'est quelque chose qui s'est ressenti dans votre éducation. C'est pas vraiment un parcours migratoire parce qu'on reste au sein de la France, mais.
Ouais, si, ça sert. J'ai une forte. Moi, j'ai toujours de la famille en Martinique, hein, même ailleurs, dans les Outre-mer. Et c'est une double culture. Et ça, faut s'y habituer aussi quand on vit pas forcément là où nos parents ont été élevés, parce que du coup, ils ont pas la même vision des choses, quel que soit le lieu où on est élevé. De toute façon, à partir du moment où on bouge de son lieu de vie et de son lieu de naissance, forcément, on a un double trajet de vie.
Bien sûr.
En fait, parce que les valeurs sont pas forcément les mêmes, la culture est pas la même, les mentalités sont pas les mêmes en fonction des pays, des îles, enfin voilà. Donc déjà même au sein d'un même pays, le sud, le nord, l'est et l'ouest, et chacun a son un petit peu ses coutumes, et donc c'est vraiment pas évident, c'est pas facile. Mais justement le fait qu'ils soient venus pour bosser parce qu'il y a pas de boulot là-bas, qu'ils aient eu à élever leurs enfants dans un pays où voilà ils sont pas habitués à plein de choses au départ. Maintenant, voilà, c'est fait, ils sont habitués, mais mis à part l'hiver qui les traumatise, ça va.
Est-ce que vous diriez que vous êtes née femme ou que vous l'êtes devenue?
Je pense pas qu'on est femme. Je pense qu'on est accompagné pour le devenir. Que ce soit par ses parents ou par les personnes qui nous ont élevés, parce que c'est pas forcément une maman qui élève, qui accompagne les enfants. Mais forcément, je pense qu'on le devient. Je pense que pour ma part, j'ai dû le devenir très tôt, trop tôt, voilà. Mais ça me sert aujourd'hui, pas que les parents, hein, tout ce qui nous entoure, en fait, nous forge, de toute façon. Puis les expériences des autres femmes aussi. Parce que quand on croit qu'on est femme et qu'on rencontre d'autres femmes, on dit « Ah non, je suis pas si femme que ça, alors. » Elles nous apprennent beaucoup de choses, ne serait-ce que l'étape de passer mère ensuite, ça c'est encore une grosse dynamique que tant qu'on le devient pas, on n'a pas conscience, quoi. Et ça, je l'ai pas vécu encore, donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis notre place au sein de la société aussi, on s'en rend pas compte quand on évolue dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont peut-être macho ou quoi que ce soit. Et c'est quand on tombe dans des milieux comme ça qu'on se dit « Ah ouais, c'est ça être une femme dans ce milieu-là en fait. »
Ouais.
Donc on n'est jamais la même femme par là où on va en fait.
Ouais, une perpétuelle évolution quoi.
Ça dépend en fait de ce à quoi on est confronté quoi. Ça peut être plus ou moins facile pour certaines personnes.
Mais justement, vous avez parlé de votre formation, donc vous avez fait un BTS en commerce international et vous avez très rapidement commencé à travailler dans le milieu de la banque. Vous avez une carrière de 11 ans au sein de la banque BNP Paribas, en tant qu'analyste des garanties internationales, c'est bien ça. Est-ce que c'est un milieu qui est quand même majoritairement masculin, qui n'est pas réputé pour être très, très doux vis-à-vis des femmes? Est-ce que vous avez été confronté à des expériences de sexisme quand vous travaillez dans ce milieu-là?
Pour le coup, le service où je travaillais, il y avait pas mal de femmes, quand même, parce que j'étais rédactrice, donc c'est plutôt un métier, du coup.
Oui, de communication, etc.
De communication, de rédaction, donc c'est vrai que voilà, c'est encore un métier où il y a beaucoup de femmes. Et donc, on se rend compte que peut-être à des niveaux plus élevés, il y a moins de femmes, mais quand même, depuis le début de ma carrière, on va dire, une petite carrière, ça a toujours été des femmes qui étaient à la tête du service, maintenant que j'y pense, en fait. J'y avais jamais vraiment réfléchi, mais... Donc, ça va... C'est pas quelque chose qui s'est ressenti, le manque de femmes au niveau de ce service-là, en tous les cas. Mais oui, si on prend la banque dans sa globalité, oui, c'est un problème.
Après, même une manager femme peut appliquer des méthodes de management qui ont été pensées...
Oui, parce qu'elles ont été pensées, de toute façon, par les hommes à l'origine. Donc, effectivement, c'est quand même différent, parce que, voilà, forcément, c'est pas la même... C'est pas la même approche, mais effectivement, les règles ont de toute façon été établies comme ça, donc elles sont appliquées, et puis si elles sont pas bien appliquées, après on vous le fait vite savoir, donc...
Ouais. Et vous avez connu une carrière assez exemplaire, hein, quand on regarde votre CV sur LinkedIn, on voit que vous changez de poste, tous les 3 ans vous grimpez les échelons, on sent l'employé modèle, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le quitter? Parce que donc, je rappelle qu'en 2017, vous avez quitté la banque BNP où vous travaillez pour lancer votre propre entreprise de cosmétiques bio. Qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter ce milieu où apparemment vous réussissiez pourtant?
Parce que c'est pas un milieu que j'ai choisi. Enfin, je l'ai choisi dans le sens où j'ai accepté, enfin, j'ai postulé et que j'ai accepté ensuite de bosser en CDI à 20 ans, en sortant du BTS, mais c'est pas un milieu qui me faisait rêver, quoi. Moi, à cette époque-là, je voulais faire de la pâtisserie, donc rien à voir.
Ah bon?
Rien à voir avec la banque, donc je suis même allée frustrée, parce que je faisais beaucoup de pâtisserie avec ma mère, qui elle en faisait pour beaucoup de monde, en fait. Et c'est devenu, ce qui était sa passion est devenu ma passion à l'époque. Très jeune, en fait. Elle m'a transmis tout ça, et puis ensuite, elle m'a dit, mais c'est pas un métier sûr. Et là, j'ai dit, ah. Donc, j'ai été un peu là où aujourd'hui, j'aurais peut-être poussé une gueulante. À l'époque, je me suis laissé faire, en fait. J'ai suivi les conseils de ma mère, mais elle avait vraiment peur. Enfin, je pense que ça aussi, ça vient aussi de sa crainte de quand elle arrivait, qu'elle avait pas de boulot. Elle, pour elle, il fallait aller dans l'administratif et tout ça. Donc, ce sont les conseils et les craintes d'une maman que j'ai suivies. Et alors, j'ai beaucoup appris, hein. J'ai beaucoup appris. Je fais des super belles rencontres. Je retiens beaucoup de choses et je regrette pas. C'était ma première expérience et je regrette pas du tout. Et j'ai quitté parce que c'est juste parce que ça me convenait pas. Au bout d'un moment, j'avais fait le tour, ça c'est certain, du métier. Mais je pensais pas faire ça toute ma vie. Mais je comptais pas non plus retourner à la pâtisserie, je préfère les consommer maintenant.
C'est pas incompatible, hein. On peut les faire et les manger, hein.
Et du coup, voilà, et puis entre-temps, j'ai eu d'autres intérêts, quoi, l'aromathérapie, la cosmétique bio et tout ça, donc je me suis reconverti là-dedans ensuite, quoi.
Mais c'est pas évident, c'est pas une décision facile à prendre, surtout, dans le contexte, d'ailleurs, que les Gilets jaunes décrivent, hein, qui est celui d'une précarité sociale. Enfin, voilà, quand on a un CDI, quand on a un salaire, quand on a un poste stable, prendre la décision de sauter dans le vide, c'est aussi un risque qu'il faut avoir le courage de prendre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le prendre, ce risque?
Beaucoup plus tôt, j'ai voulu le prendre. Ça a même beaucoup tardé. En 2014, j'avais déjà annoncé à mes responsables que je voulais faire autre chose. J'ai essayé une autre voie. J'ai essayé la voie de la mutation, qui n'a pas fonctionné. Et en fait, quand vous êtes dans un service et dans un métier qui est très spécifique et qu'on n'arrive pas à recruter en interne, parce que voilà, trop de spécificité, les gens ça leur parle pas tant qu'ils ont pas vu ce que c'est, donc c'est beaucoup plus difficile que dire on cherche un commercial, ou le métier de la rédaction de garantie internationale, ça parle à personne, quoi. Donc du coup, ils essaient de garder les éléments qui sont déjà formés depuis des années, donc c'est très compliqué de partir en interne pour faire autre chose, parce que BNP c'est un monde, hein. Il y a beaucoup de métiers, en fait. Ce qu'on retrouve comme métier ailleurs, on les retrouve dans la banque. Aujourd'hui, une banque, c'est plus qu'une banque, quoi. C'est plein de choses. Donc, comme j'arrivais pas à partir en interne, du coup, j'ai dit, tôt ou tard, va falloir que je parte, clairement, pour pouvoir faire vraiment autre chose, quoi. Donc, oui, ça peut être surprenant, même de l'intérieur, la peur de perdre cette stabilité, ça, on m'a questionné là-dessus, souvent, parmi mes anciens collègues. Mais bon. Je sais que de toute façon, rien n'est jamais perdu, hein. Une expérience de vie, c'est plein de choses. Donc, si ma route doit se retrouver à un moment donné sur si je dois me retrouver entre guillemets sur mon chemin sur une voie du salariat avec cette stabilité à nouveau, bah ça se fera si ça doit se faire quoi.
Et donc vous avez décidé de vous lancer dans la cosmétique bio, vous avez aussi des formations en aromathérapie, en soins en esthétique bio. Et je me demandais si ça correspondait à une prise de conscience écologique de votre part. Est-ce que c'est vraiment un déclic vert qui vous donne envie de lancer cette entreprise-là?
Ouais, un déclic écologique et aussi de santé. Parce que j'ai la peau assez fragile et que ça faisait des années que je me disais mais c'est chiant d'aller toujours acheter mes trucs en pharmacie, que c'est des médocs en fait. Ouais. Donc c'est encore plus pourri à long terme, mais sur le coup ça paraît soulagé. Et c'est parti de là en fait. C'est parti déjà d'un besoin personnel. Et d'un constat aussi de moi, de ma famille, mes amis qui ont certains la peau fragile et de voir à chaque fois toutes ces études qui prouvent que tout ce qu'on se met sur la peau, c'est complètement pourri. Et tout le cheminement est parti de là. Donc en fait, j'ai connu les huiles essentielles à travers... Enfin, j'ai entendu parler, mais j'ai commencé à les utiliser par l'apport des cosmétiques en fait. Alors que la formation concernant l'aromathérapie, quand je me suis formé là-dessus pour ouvrir mon site... J'ai voulu approfondir pour l'usage des soins, non plus cosmétiques, mais des soins vraiment de santé, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé jusque là.
Vous avez un petit côté quand même un peu geek, j'ai l'impression, quand il y a un sujet qui vous intéresse, ouais. Vous allez tirer le fil jusqu'à la corde.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Et c'est vraiment ça d'ailleurs que vous avez fait avec la pétition. Ce que je trouve intéressant en fait, quand vous racontez ce moment où vous avez voulu écrire cette pétition, c'est que vous dites « le fait de m'être reconverti m'a permis d'avoir plus de temps pour réfléchir et prendre conscience des inégalités que je pouvais vivre et m'engager en tant que citoyenne ». Ça, je trouve ça vraiment important parce que on prend conscience que dans une vie normale, une vie transport, boulot, dodo... comme la plupart des Françaises et des Français le vivent au quotidien, il n'y a pas d'espace mental pour la réflexion politique, en fait.
Exactement. C'est comme ça que je le ressens, le boulot, lorsque ce n'est pas un boulot dans un milieu qu'on a choisi, c'est quand ce n'est pas fait par passion et tout ça, je trouve qu'effectivement, on est asphyxié. On est asphyxié et en plus, on a toujours la conscience de vouloir bien faire alors que tout nous survivra. Concrètement, demain, si tout le monde démissionne, ils survivront. donc c'est vrai qu'on s'en fait tout un foin et de prendre du temps pour nous et pour nos loisirs et pour nos tout ce qui nous tient à cœur. Hein, si on veut rentrer dans un collectif, dans une asso ou quoi que ce soit, notre temps est tellement pris par la vie familiale, les soucis qu'on peut avoir et le travail principalement, parce que je disais ça à mes collègues qu'on passe plus de temps au boulot qu'avec notre famille toute l'année. En réalité, on se donne corps et âme pour le boulot, quoi. Donc, et encore, quand les gens sont à leur compte, c'est pire, quoi. Donc, du coup, ça laisse peu de place pour réfléchir. Et puis, la télé n'aide pas.
C'est sûr, ça.
Donc, du coup, c'est sûr que quand j'ai quitté la banque, ça a libéré toute une partie de mon cerveau. En fait, qui était plus du tout pris par « demain, tel client qui va gueuler, il faudra que j'arrive tôt, comme ça, quand je lui enverrai mon mail, il le verra avant ». Enfin, voilà, on devient complètement parano, on est complètement pris. Et c'est vrai que non, il n'y a plus ce souci-là, quoi. Il n'y a plus ce souci-là. Et puis, y a, en fonction de là où vous bossez et de vos managers, s'il y a de la bienveillance, ça peut mieux se passer. Mais il y a des boulots où les gens sont harcelés ou ils sont complètement culpabilisés parce qu'ils n'ont pas appuyé sur le bon bouton. Enfin, ça devient vraiment problématique dans certains secteurs. Donc non, ça laisse aucune place pour la réflexion, quoi. Ou alors, faut être un warrior, quoi.
Ouais, ouais. Oui, il faut pas avoir besoin de dormir, quoi. Ouais. Comme Emmanuel Macron, il faut dormir 2 heures par nuit.
C'est ça. Éventuellement, ouais.
Vous vous souvenez du moment où vous êtes rendu compte que cet espace-là, j'allais dire, de colère politique ou de besoin de revendiquer les choses, il est apparu? Vous vous êtes dit, mais tiens, c'est fou.
Ben, il est apparu tôt parce que par rapport au fait que je suis originaire des Outre-mer, je vois déjà tout ce qui se passe là-bas. Donc les retours de la famille, moi j'y allais souvent aussi, et la vie est extrêmement chère, vraiment. Et donc déjà rien que ça, c'était déjà quelque chose qui me révoltait pas mal, et ça amplifiait d'année en année. Et du coup, à côté de ça, j'ai toujours été un peu celle qui faisait pas le mouton au boulot, quoi. De toute façon, ça a toujours été un peu en moi. Ensuite, c'est pas la première pétition que j'ai créée, hein. J'en ai créé 3 ou 4 autres, mais que j'ai pas partagées. en fait. Je les avais montrées à mon entourage. Elles sont restées dans l'espace
brouillon
de change.org. Et j'ai pas donné plus d'impact. J'ai pas voulu trop partager parce que je me suis dit, voilà, après, faut avoir le temps de faire ça. Mais bon, sans me dire que ça allait donner quelque chose d'aussi grand que le mouvement. Mais ne serait-ce que pour l'engagement personnel, justement, le manque de temps. Parce que ça, je les ai faites pendant que je bossais, par exemple. Donc je me suis dit, j'aurais pas le temps, machin. Donc j'ai laissé ça dans l'espace. Mais du coup, c'est toujours quelque chose qui a été. En moi, c'était, il y avait plusieurs sujets. Enfin, il y avait deux sujets qui concernaient l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est pareil, j'ai beaucoup accompagné des personnes de ma famille qui montaient leur boîte. Donc du coup, j'ai vu certaines choses qui n'étaient pas normales pour moi. Ensuite, il y avait le côté éducatif. Il y avait une pétition qui était déjà à l'éducation nationale. Parce que là aussi, quand on grandit, on voit plein de choses, en fait. On a matière tous à dénoncer des choses. Parce qu'on a, dans l'expérience au sein d'un lycée ou d'un collège ou pour ses frères et sœurs, il y a plein de choses qui ne sont pas normales, quoi. Mais rentrer dans des comités de parents d'élèves, ça suffit pas. Il y a pas de poids, quoi. Donc pareil, j'avais lancé un truc et le dernier sujet concernait l'esclavage et la reconnaissance de cette dette. Enfin, des sujets qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, quoi.
Ouais, mais, donc quelque chose qui était en train de monter en vous depuis plusieurs années, ouais, quand carrément. Même un besoin de dire il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Carrément.
Sortons de la résignation en quelque sorte. C'est ça aussi que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné.
Quand on voit qu'on n'a pas de moyens, qu'on est seul, on lance un truc, on se dit bon ben de toute façon j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot, donc ça sert à rien. Et puis ce sont des molosses, quoi. Donc donc on n'arrivera à rien, et puis du coup on abandonne un petit peu et puis on retourne à sa routine. Donc ouais. Et puis là tout s'est fait d'un coup, la reconversion, les formations, la pétition. Donc ça a été vraiment le cerveau qui s'est mis à dispo pour essayer d'avancer, quoi.
Et donc cette pétition, bah, je voudrais vraiment qu'on en parle parce que, enfin, j'imagine que la plupart des Français et Françaises qui l'ont signée l'ont fait, mais j'ai vraiment pris le temps de la lire et je trouve qu'on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, évidemment, mais je suis pas sûre que les journalistes et les Français soient vraiment penchés sincèrement sur ce que vous avez écrit, parce qu'à l'origine, en fait, c'est une véritable enquête de lanceuse d'alerte où vous avez réalisé que les taxes sur le diesel augmentaient à une vitesse vertigineuse sous prétexte de financement de transition écologique. Vous êtes dit, tiens, je vais vérifier que l'argent que je verse à la pompe à essence en faisant mon plein chaque semaine sert bien à ça. Et vous avez constaté que non. Et que ces mesures n'étaient pas du tout accompagnées de ce qu'il faudrait faire réellement pour aller vers une transition écologique. Enfin, c'est limpide, c'est hyper important. J'aimerais savoir comment vous avez fait, en fait, pour mettre bout à bout toutes ces données-là, en fait, pour créer cette enquête que finalement très peu de journalistes avaient pris la peine de faire avant vous.
Ben, c'est ce que j'aurais fait sans faire la pétition, en fait. Parce que, effectivement, j'aime creuser. Et pour comprendre. Et la différence entre ce que j'aurais fait habituellement en allant sur les réseaux, en cherchant les sources, parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup parcouru de sites officiels et d'associations, de voir le boulot que les gens ont fait depuis des années sur le sujet, en fait. C'est ce que j'aurais fait habituellement, et puis je me serais arrêté là, en fait. J'aurais râlé sur un groupe de copines, WhatsApp, et ça se serait arrêté là. On en aurait parlé une soirée et puis voilà, ça aurait fini en raclette et puis c'est tout. mais là, la différence, c'est que j'ai voulu le partager sur la pétition et partager ensuite la pétition et demander aux gens, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est partagé avec une rigueur, enfin, on dirait un rapport parlementaire, sauf que c'est lisible et bien écrit.
Parce que j'aime pas vraiment balancer des trucs sans qu'on puisse vérifier ce que je dis, quoi. Même si ce que j'ai marqué peut être faux, mais au moins la source est marquée.
Ouais.
La source figure, on peut aller voir où j'ai cherché.
Parce que là, ça a été recoupé, vérifié, et que ce que vous dites est complètement vrai. Enfin, il y a des choses, effectivement. J'ai fait plein de copier-coller, mais c'est quand même hallucinant de se dire, on taxe le diesel pour passer au véhicule électrique, etc. Ok, c'est très bien. Mais il n'y a aucune taxe, par exemple, sur le kérosène, non, sur les avions.
Ouais.
Donc on peut se dire quand même, il y a une espèce d'aberration de faire reposer cette pseudo-responsabilité de transition écologique sur les épaules des citoyens les plus pauvres, alors que les compagnies aériennes sont exonérées de ce genre de problématiques. Enfin, c'est tout simple comme constat.
Puis ça date de 1944, ça, si je me souviens. Mais depuis tout ce temps, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais depuis tout ce temps, ça choque personne. Enfin, moi, ça m'hallucine, quoi. Je suis encore aujourd'hui, hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Et ça, oui, le mot révolté, je veux bien l'utiliser, là. Pour le coup, c'est révoltant. Ouais.
C'est révoltant.
Clairement, ouais.
Et ce qui est révoltant aussi, c'est cette espèce de lecture un peu rapide des choses qui a pu être faite au début du mouvement, notamment, en fait, les Gilets jaunes, ils veulent pas qu'on taxe le diesel parce qu'ils sont contre l'écologie. Alors qu'en réalité, votre démonstration, elle est complètement inverse. Genre, si vous voulez vraiment être pour l'environnement, faites les choses correctement. Là, ce que vous faites, ça ne sert à rien, quoi.
C'est ça. Et en fait, quand au départ, je faisais les plateaux et qu'on m'opposait ça, les députés de la majorité, ils étaient vraiment très nombreux à le faire. Donc, je me suis dit, c'est un mot d'ordre.
C'est la mauvaise foi.
Ouais. Si c'était une personne parmi 10 députés que je voyais, je me serais dit, bon, elle a pas compris, elle a pas lu. Mais en fait, je pense qu'ils ont très bien compris. Parce que moi, au départ, c'est ce que je disais. Je disais, mais vous avez pas lu. Et en fait, une fois, deux fois, trois fois, quatre députés, cinq députés, j'ai dit, non, là, c'est vraiment une instruction qu'on leur a donnée de dire ça, quoi. C'est une stratégie, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est forcément une stratégie au bout de plusieurs députés qui vous disaient
la même chose. Des éléments de langage qu'on leur avait donné, dites-lui qu'elle est anti-écolo, comme ça.
Exactement. Ouais. Et c'était beaucoup trop répandu pour que ce soit une. Juste un argument lâché comme ça en plein départ.
Ça devait vous rendre dingue, comment ?
Ouais, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce que du coup, je me dis, les téléspectateurs qui n'ont pas lu vont se fier aux parlementaires, en fait. Parce qu'ils se disent, c'est qui ? On ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qu'elle veut. Et ils peuvent très bien se dire, non, ils savent très bien de quoi ils parlent, ils sont au Parlement, ce sont des gens sérieux, ils peuvent très bien avoir cette image-là comme ça et ce contraste en se disant pourquoi on lui ferait confiance alors que c'est pas son boulot ou quoi que ce soit. Donc c'est frustrant parce qu'il faut se défendre après en plateau pour dire non. C'est faux ce que vous dites et c'est grave surtout, en fait, au final. Parce que eux-mêmes ont les compétences pour aller vérifier ce genre de choses. Enfin, ils peuvent aller creuser, chercher les textes de loi, enfin voilà, c'est leur boulot. Et de unanimement de dire ça, c'est vraiment pour moi une faute professionnelle, quoi. Ça, enfin, je veux dire, ça craint.
Vous dites souvent ça. Vous dites souvent, en fait, je fais le travail des politiques à leur place.
Ben, je trouve que tous les lanceurs d'alerte, moi, je suis pas une lanceuse d'alerte au niveau de ce que j'ai pu voir, des alertes vraiment qui nous alertent sur des choses vraiment très graves. Mais je considère que c'est effectivement une alerte que je lance et que c'est pas à nous de le faire. Voilà. C'est pas à nous, à la limite, ce sont même les journalistes, pour moi, qui sont les premiers lanceurs d'alerte. Pour moi, ils font partie de ceux qui devraient justement nous mettre en garde face à ces dysfonctionnements. Et les parlementaires, et puis tous les corps intermédiaires, en fait, en réalité aussi. Hein. C'est leur boulot de faire ça. Alors, c'est vrai qu'après, ils n'acceptent pas que nous, on soit... Enfin, quand je dis nous, c'est le citoyen lambda, qui n'a pas de métier qui lui permette et qui lui donne la capacité, que ce soit logistique, financière ou quoi que ce soit, de lancer ce type d'alerte-là au grand public. Donc, du coup, quand on le fait, on paraît un peu comme des fous, quoi. Voilà, on ne sait pas ce que vous voulez, c'est pas argumenté.
Quel est votre intérêt ?
Quel est votre intérêt, voilà, tout de suite. Et alors que si on en vient à faire ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui n'a pas fait son boulot quelque part. Donc ça met en plus des personnes en risque, en exposition, en difficulté. Alors que comme moi, j'avais une dame un jour en plateau qui me disait « Oui, mais bon, on vote, donc ça suffit, vous n'avez pas besoin de... » Bah si, enfin, parce qu'on vote qu'on n'a rien le droit de dire. Si on constate que les choses ne sont pas faites ou qu'elles sont faites de manière un peu avec un petit peu une pincée de vis j'allais dire de corruption, mais c'est pas le mot que je cherchais, mais avec des intérêts particuliers, oui, forcément qu'on est en droit de dire quelque chose. Et c'est ça, moi, que je trouve pas normal aussi, c'est que on considère qu'on doit se taire, en fait, si on a voté, on peut plus s'exprimer, quoi. C'était un peu ça que je comprenais dans son message.
Alors pour remettre un peu les choses dans l'ordre, donc la pétition, vous l'avez mise en ligne au mois de mai 2018. Au mois d'octobre, elle rassemble déjà 200 000 signatures, ce qui est déjà énorme. Elle attire l'attention de certains médias locaux, pour commencer. Mmh. Dans le 77 d'abord, en Seine-et-Marne, et puis du Parisien, qui fait un article. Et d'un seul coup, la pétition explose. Vous récoltez 500 000 signatures en l'espace de quelques semaines. Et vous appelez à un blocage national le 17 novembre. Dans la foulée, un chauffeur routier reprend votre appel et propose dans une vidéo aux citoyens et citoyennes qui soutiennent le mouvement de mettre leur gilet jaune sur le pare-brise. Et ainsi, le mouvement naît. Les samedis de mobilisation se succèdent avec les violences, malheureusement, qu'on connaît. Quand vous avez vu cette machine s'enclencher suite à cette pétition, est-ce que vous avez eu le sentiment que les choses vous échappaient ?
Ben oui et non. Oui, enfin, je dirais non, dans le sens où, en fait, j'ai eu l'impression que, comme pas mal me disent, que c'était la goutte d'eau, qu'en fait, c'était le bon timing, c'était la goutte d'eau, et que c'était, voilà, au bon moment. Et que, de toute façon, tôt ou tard, ça aurait commencé à gonfler un peu tout le monde, et que tout le monde serait sorti dans la rue tôt ou tard, quoi. Alors, on saura jamais, du coup, s'il y avait pas eu cette pétition, est-ce qu'à un moment donné, il y aurait eu un mouvement qui serait né comme ça, dans les mois qui auraient suivi, ou l'année qui aurait suivi. Mais là où j'ai trouvé que ça m'avait un peu échappé, c'est que j'ai suivi en fait un peu rigoureusement ce qui était conseillé par Change.org. En fait, au départ, discuter avec vos signataires, aller sur Facebook, partager, contacter les médias pour envoyer votre pétition. Moi, j'en étais encore là. Et quand j'ai contacté le Parisien, enfin tout le monde, j'ai contacté. Mais quand le Parisien a fait paraître ça, bah tout de suite j'ai été appelée par tous les plateaux télé. Donc j'ai même pas eu le temps de créer un groupe Facebook, de créer une sorte de communauté autour de la pétition. Mais j'ai pas du tout eu le temps, quoi. J'ai été en mode scolaire, moi, encore, à ce moment-là.
C'est peut-être d'ailleurs la preuve que c'était, enfin, que ça devait, que c'était là, quoi.
C'est ça que ça démontre. C'est qu'il manquait vraiment, c'était à très peu, quoi, d'exploser. Donc, ouais, c'était, je pense, une question de timing.
Vous avez, alors il y a eu beaucoup de rebondissements, des conflits plus ou moins ouverts entre les différents visages du mouvement dont vous faites partie avec d'autres. Je peux citer par exemple Éric Drouet ou Maxime Nicole. On va pas y revenir ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous avez toujours refusé d'endosser un rôle de leader. Vous répétez sans cesse « je suis porte-parole, je ne fais que retranscrire la parole des personnes qui ont signé ma pétition ». Pourquoi vous avez refusé ce rôle de chef ?
Ben, je pense pas que je l'ai refusé parce qu'on n'a jamais demandé. Enfin, s'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me le demander, mais c'est pas suffisant pour se permettre de prendre un rôle de leader sur tout le mouvement parce que tout le mouvement revendique beaucoup de choses. Moi, en tout cas, ce que je disais au départ, c'est que j'étais sur la pétition. Je me conseillais comme la messagère parce que j'ai porté un message via la pétition et que porter la parole à travers cette pétition, c'était normal parce que je l'ai poussé, j'ai approché les gens pour qu'ils la signent, donc on peut pas juste s'arrêter là. En fait, au bout d'un moment, les gens attendent des résultats, et c'est tout à fait normal dans cette optique-là d'être porte-parole de sa propre pétition. Ça paraît évident. Après, pour ce qui concerne l'ensemble du mouvement, c'est autre chose, parce que si j'avais eu à lancer quelque chose, j'aurais structuré dès le départ, enfin comme une petite société, quoi, on va dire, pour que les choses soient cadrées, que le message soit cadré, etc., etc. Donc quand on n'a pas structurer dès le départ quelque chose sur son initiative et qu'on n'a pas un message commun, etc., on peut pas se revendiquer comme étant leader de ce mouvement-là. Et effectivement, moi, je fais partie des personnes qui ont eu à s'exprimer pas mal sur les mouvements des Gilets jaunes parce qu'on a lancé l'appel du 17 et puis les manifestations suivantes. Et on a été beaucoup médiatisés ensuite sur le sujet. Mais c'est vraiment le mouvement de tout le monde, en fait. Même le Gilet jaune a été lancé par le fameux Routier, là, enfin, qui s'est exprimé dans sa cabine. Mais en réalité, s'il n'y avait pas eu le gilet, ça aurait été vraiment quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de populaire, mais on l'aurait mieux vu comme ça s'il n'y avait pas eu cette étiquette gilet jaune, on va dire. Parce que c'est devenu une étiquette aujourd'hui, parce que le mouvement... Pas le mouvement, mais le gouvernement s'en est servi pour l'attaquer chaque semaine en disant... Voilà, pour stigmatiser, etc. Donc du coup, ça a été compliqué aussi jusqu'à ce qu'on puisse centraliser les revendications dans la plateforme du vrai débat. Jusque-là, on nous a beaucoup reproché qu'on savait pas ce qu'on voulait. Enfin, c'était même le gouvernement devait jouer de ça, en fait, parce que ça partait de la pétition. On dit que vous savez pas ce que vous voulez, vous avez pas de revendications claires. Donc, non, dans ces conditions-là, non, on peut pas se dire leader d'un mouvement qui réunit tous les profils. Je pense que quand on est un leader, et le message est clair. Voilà. Pour moi. Là, il y a tellement de revendications que même si elles sont centralisées, il y a un top 59 sur les 25 000 propositions. C'est énorme et c'est un gros chantier si jamais on devait s'attaquer à ça. Et donc voilà, je pense que c'est tout à fait normal de pas... Puis il faut s'entendre aussi avec les personnes qui sont aussi... si jamais il y avait, je sais pas, toutes les personnes médiatisées qui devraient s'allier, entre guillemets, pour créer quelque chose, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, tout le monde n'a pas la même façon de faire. Donc dans ces conditions-là, on peut pas se dire leader, non.
Et d'aller dans les partis politiques, où on vous a, je crois, un peu fait du pied, surtout à gauche, pour que vous rejoigniez des partis politiques, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas non plus ?
Non, c'est vrai que très tôt, ils ont été actifs très tôt, dès le mois d'octobre, en fait. Ouais. Mais non, ça ne m'intéresse pas du tout, ce n'était pas du tout l'optique, et même aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas.
Pourtant, vous avez, j'ai envie de dire, toutes les qualités, en fait. On vous présente très souvent dans les portraits de la presse, que la presse a fait de vous depuis un an, l'une des figures les moins contestées du mouvement des Gilets jaunes. On parle de votre flegme, de votre force tranquille. On parle de vous comme le gage de crédibilité du mouvement. Est-ce que vous aimez qu'on vous présente comme ça ?
Bah, tant qu'on me présente pas comme un monstre, ouais, ça me va. Parce que j'en suis pas un, donc ça me rassure. Non, ben... si c'est comme ça que les gens me perçoivent, tant mieux, c'est que du positif que vous avez cité. Donc,
c'est hyper positif, c'est vrai que ça tranche avec le côté, enfin, les autres figures, elles sont souvent présentées comme un peu fantasques, fougueuses, voire complotistes, voire extrémistes, etc. Et vous, enfin, votre image a jamais été entachée, quand même. Même, je sais pas, je parlais avec quelqu'un de ma famille qui est pas du tout gilet jaune dans l'âme, qui me disait, ah, mais elle est bien, elle est mesurée quand elle parle. Enfin, il y a quelque chose où, comme ça, vous avez l'air d'arriver à mettre tout le monde d'accord. C'est quand même une qualité indéniable pour un leader politique.
Ben tant mieux, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment aucune mauvaise intention. Donc si ça transparaît, c'est au moins ça c'est au moins ça de prix, parce que c'est important quand on porte un message, que d'être, déjà c'est pas facile d'être entendu, mais quand on est entendu, si on est audible avec les gens avec qui on essaie de communiquer, si on paraît audible vis-à-vis d'eux et qu'ils reconnaissent qu'il y a quand même de la bienveillance et que les recherches elles sont sérieuses et que voilà, c'est vraiment, vraiment une bonne chose, parce que c'est pas facile en réalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvaises intentions, qui sont insultants, qui sont pas très cool. Et ça peut être difficile quand on est de l'extérieur et qu'on connaît pas les personnes qui s'expriment, de se demander, il est où le vrai dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne personne ou pas, quoi? Donc si ça se transparaît de cette manière-là, je trouve ça très bien.
Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui s'en sont servies au contraire pour revendiquer aussi une certaine forme de pouvoir, de leadership.
Au sein du mouvement ?
Ouais.
J'ai pas vraiment senti qu'il y avait. Enfin, je pense que ça aurait pu être fait beaucoup plus tôt s'il y avait quelqu'un qui voulait. Peut-être dans le comportement. Peut-être dans le comportement.
Mais globalement, c'est vrai que cette horizontalité, elle tenait à cœur en fait à tout le monde, quoi. Le côté spontané, naturel et.
Après, c'est pas facile de trouver sa place quand on a eu beaucoup de médiatisation, parce que certains associent médiatisation à tentative de prendre du pouvoir entre guillemets ou prendre le leadership sur plein de choses, alors que pas du tout. On a plus été des communicants. Parce qu'en réalité, même quand on a vu de Rugy fin novembre, moi, j'avais synthétisé tout ce que j'avais reçu par mail, des gens qui dépassaient du coup le sujet de la transition écologique. Et si on n'avait pas transmis ça, à un moment donné, je veux dire, il n'y aurait pas eu de date donnée dans le mouvement qui aurait été associée à une remise officielle de revendications. Et on n'aurait jamais su que ça dépend. Enfin, on aurait su parce que voilà, on s'est exprimé dans les médias, etc. Mais en tout cas, à cet instant-là, c'était important. C'était 10 jours après la première mobilisation, et c'était important de montrer que très tôt, les gens en fait avaient déjà, c'était déjà dit, on sort, mais pour tout ce qui va pas en fait. Et là, ces documents qu'on a remis à François de Rugy, il les a eus le 27 novembre. Il peut pas nier qu'il était pas au courant. De l'ampleur que ça pouvait prendre avec tout ce qui était noté sur ces documents.
Et c'est vous qui avez fait le taf de structurer, de mettre en forme.
J'ai beaucoup appris, mais c'était long, c'était hallucinant de voir vraiment que les gens étaient vraiment prêts, mais avaient beaucoup de choses à dire. En fait, c'est ça le truc. C'est que le fait qu'on entende vous voter, et puis c'est tout, vous avez fait confiance, vous assumez, en fait, non, les gens ont plein de choses à dire. Moi, j'ai été inondé de Messenger, quoi. Vraiment, les gens ont gros sur la patate,
Ouais, et puis ils disent pas n'importe quoi. Non. C'est ça aussi, cette espèce d'impression qu'on peut avoir. Oui, mais ils savent pas de quoi ils parlent, etc. Alors qu'en fait, c'est...
Ah, clairement pas.
J'ai lu tout à l'heure, vous y avez fait allusion au vrai débat. Donc en fait, Emmanuel Macron, je rappelle un peu les faits pour ceux qui auraient suivi de loin. Emmanuel Macron a donc proposé de lancer un grand débat national. Alors, les conditions dans lesquelles ce débat s'est organisé sont catastrophiques. On se rappelle de Chantal Jouanneau qui a carrément dû démissionner parce qu'on ne donnait pas, en gros, les moyens d'organiser un vrai débat. Donc vous avez monté avec d'autres leaders des Gilets jaunes, je dis le mot leader, pardon, d'autres représentants des Gilets jaunes, le vrai débat en ligne. Et c'est un espace vraiment intéressant où il y a, donc vous me dites, 25 000 revendications qui ont été remontées. D'ailleurs, tout est rassemblé dans un livre qui s'appelle Gilets jaunes, revendications 100% citoyennes passées sous silence par le gouvernement, qu'on peut acheter en ligne pour 1 euro, chose que j'ai faite et qui est passionnante. Et ce qu'on retrouve tout en haut des revendications, ce qui revient vraiment tout le temps et ce qui est très clair, c'est cette revendication du référendum d'initiative citoyenne qu'on a vu beaucoup écrit, ce RIC. Et finalement, je suis pas forcément sûre que tout le monde mesure bien ce que ça veut dire et pourquoi cette revendication, elle arrive si haut dans la liste.
Elle est arrivée très tôt, en décembre, parce qu'en fait, on se rendait compte que... C'est pas qu'on se rendait compte, mais on affirmait aujourd'hui qu'on avait, en tant que citoyen, c'est compliqué de s'exprimer. Et qu'on n'a pas d'outils, en fait. Moi, j'en ai parlé à François de Rugy quand je l'ai rencontré, en lui disant, mais en fait, les pétitions, vous en fichez, il n'y a pas de veille au gouvernement pour que lorsque ça prend de l'ampleur, il y ait une sonnette d'alarme qui, chez vous, se retentisse et avec une équipe qui se dit, bon, ben là, il y a peut-être quelque chose qui se passe, on va peut-être se pencher dessus. Je dis que parce que voilà, les gens ont des choses à dire et s'il y a des dysfonctionnements que vous n'avez pas détectés ou que vous n'avez pas, que vous avez mis sous le tapis, bah, faut qu'il y ait un espace pour les citoyens pour s'exprimer, quoi. Et en fait, cet outil-là, il a été, beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux en disant, mais c'est ça qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse s'exprimer parce qu'on peut pas. Et c'est, du coup, ça a vite pris de l'ampleur parce que même si, certains y voient quelque chose de pas très, pour eux, ça va rien changer. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas parce que ça existe dans d'autres pays que ça va marcher chez nous, mais peu importe. L'idée, c'est d'essayer, si jamais on le mettait en place, bah, ce serait au moins un outil de plus, pour essayer de faire changer les choses. Parce que concrètement, c'est pas juste s'exprimer, c'est proposer aux autres citoyens des choses.
Ouais.
S'il y a une loi injuste, s'il y a une loi qu'on considère qu'elle a été passée beaucoup trop rapidement dans la nuit, avec 2-3 députés alors qu'ils sont presque 600, normalement, voilà, faut qu'on puisse mettre un stop à tout ça parce que c'est pas normal. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement a tout de suite balayé le truc et a dit non, mais c'est un truc antidémocratique.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on débat de ça, j'allais dire au Café du Commerce, c'est un peu cliché, pardonnez-moi, mais les gens vont dire, enfin, on entend souvent, oui, mais les gens, si on laissait les gens gouverner, on aurait encore la peine de mort. Cette espèce d'idée qu'en fait, le français moyen n'est pas capable de penser par lui-même.
Exactement.
Et que les propositions vont être farfelues ou inapplicables, ou etc. Alors que justement, quand on lit les revendications que vous avez listées soigneusement dans ce livre du vrai débat, on voit qu'il y a une cohérence incroyable entre la justice fiscale, la justice environnementale, la représentation démocratique. Enfin, toutes les facettes de la démocratie sont explorées avec vachement de pertinence, quoi.
Ouais. Et puis dans la plateforme, il y a eu pas mal d'échanges entre les gens. Ça transparaît pas dans le manifeste, mais il y a eu des débats en fait en ligne. Les gens se confrontaient leurs idées en fait avant de voter. Il y a eu 1 million de votes et en fait pour les propositions qui prenaient de l'ampleur et celles qui étaient les plus plébiscitées, mais il y avait des échanges en fait entre les gens. En fait, donc les gens ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de belles idées en plus aussi. Hein.
Oui.
Là, si je reviens sur la pétition et que je découvrais les gens qui avaient créé leur propre carburant, ce sont des gens qui ont des initiatives, qui font des choses, mais qui ne sont pas entendus, écoutés, financés.
Oui.
Et si on parle de, je ne sais pas moi, du concours Lépine, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais je veux dire avec toutes les belles innovations, elles viennent du fond en fait. C'est pas des grands noms quelquefois qui ont inventé les choses et qui ont proposé des belles choses. Ce sont des gens de terrain parce que justement elles ont vu ce qui fonctionne pas et donc elles ont fait quelque chose pour s'adapter, soit pour faire des économies, pour être en meilleure santé, pour pas polluer leur environnement. Et en fait elles ont fait quelque chose à l'échelle de leur famille. Mais si c'était reproduit à plus grande échelle, ça pourrait aider tout le monde. Mais si on n'est pas écouté et qu'on n'a pas d'espace, forcément que ça reste lettre morte, quoi.
Ce que vous avez démontré, j'ai l'impression, et vous avez aussi travaillé sur un livre, enfin vous avez écrit la préface d'un livre, je ne rappelle plus la note. Écrire la Constitution d'Étienne Chouard. Et finalement, je trouve que ce que vous dénoncez sans relâche, c'est finalement le fait que la démocratie est cassée. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est rompu entre les dirigeants politiques et le peuple qui sont supposés représenter.
Ouais, je trouve qu'on a l'impression on a une apparente démocratie. Alors après, peut-être que je vais un peu loin, parce que certains diraient dans d'autres pays, voilà, il n'y a pas d'espace du tout pour s'exprimer, c'est très cloisonné et on a la chance de pouvoir ici s'exprimer un peu plus. Alors moi, je ne me contente pas à ce que j'ai la chance de faire, je me dis mais comment améliorer les choses. Et c'est ce qu'on se dit toujours dans sa vie au quotidien, on n'est pas obligé de se contenter de ce qu'on a sous prétexte que d'autres ont moins, mais on a le droit en fait, on est en droit d'accéder, d'avoir mieux, si on peut, surtout si c'est légitime, parce qu'en fait, quand on pense nommer des gens pour qu'ils puissent diriger les choses à notre place, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont censés faire n'importe quoi. C'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi en fait, hein. Et c'est là où je pense qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer. Parce qu'ils ont ils oublient qu'en fait ils travaillent pour nous, ça je le dis souvent aussi. Et que c'est pas du tout l'inverse, quoi. Ils sont complètement, pour moi, à côté de la plaque là-dessus. Et je pense que là, il y a un message à faire passer comme quoi il faut qu'ils retrouvent leur place. Au contraire, là, il y a un échange de place à faire.
Ouais.
Et qui réalisent que non, la vraie démocratie, elle n'existe pas vraiment. Alors peut-être qu'elle n'existera jamais, parce que ce serait vraiment utopique, quoi, d'avoir. Mais accepter, enfin ne pas accepter que les citoyens s'expriment et ne pas les entendre, ça pour moi ça prouve qu'ils en veulent pas, par contre, de la démocratie, que c'est apparent en fait.
Moi je sais que j'étais choquée par déjà le temps de réaction. Je crois qu'Emmanuel Macron, il a mis 7 mois quand même à répondre à votre pétition. En réalité, ça c'est quand même assez fou quand on sait qu'il y a pratiquement un Français sur 60 qui a signé la pétition. On peut se dire quand même qu'il y a quelque chose qui interpelle réellement les gens. Et même sur les marches sur le climat, moi je trouve ça dingue en fait. Je sais pas, j'ai participé à je sais pas combien de ces marches et en fait il y a même pas accusé de réception. Il y a même pas genre OK, je vous ai vu, j'ai lu vos pancartes.
Ouais.
J'ai entendu votre inquiétude. On dit même pas donnez-nous une réponse, on dit simplement genre est-ce que vous nous entendez.
C'est ça.
Et même pas. Même pas accusé de réception, quoi. C'est ça que je trouve hallucinant.
Ben, en fait. Je sais pas comment il est conseillé, le président, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont les personnes qui l'entourent? Est-ce que... Il y a vraiment un vrai questionnement, parce qu'il a beaucoup donné conseil à l'étranger, en disant, voilà, je soutiens le peuple de Venezuela qui cherche la démocratie. C'était un peu... et puis c'est un peu fait envoyer balader, et ils lui ont dit, mêle-toi de ce qui te regarde chez toi. Vois ce qui se passe chez toi.
Ou aller manifester en Pologne aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est assez étonnant, parce qu'il est dans... Soit il est dans le déni complet, soit il l'affirme. Le fait, il assume le fait que non, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire, je suis élu, je reste là pendant 5 ans, je fais ce que j'ai prévu. Il n'y a pas de remise en question. En fait, à partir du moment où il s'est mis en tête qu'il y avait ce plan-là à mettre en place, bah, peu importe ce que les gens diront, j'ai l'impression qu'il suivra son plan sans se dire ben, ils ont remis en question quelque chose, même si il n'y a pas de, selon lui, de preuve que toute la population pense pareil, je ne vais pas les écouter. En fait, à partir de quel moment il considère qu'il faut écouter? C'est ça, en fait.
Bah, oui.
Parce que lui considère qu'il doit être écouté alors qu'il a été élu par la majorité de la minorité. Et à défaut de... voilà. Mais quand c'est d'autres qui ont pas forcément la... Parce qu'à un moment donné, il y a des sondages qui disaient qu'il y avait un soutien à 80%, puis à 75%. Mais au-delà des sondages, peut-être qu'il lui fallait quelque chose de plus poussé pour qu'il se dise c'est partagé par l'ensemble. Mais même si c'est pas le cas, c'est pareil pour lui. Donc si on doit l'écouter, il doit aussi être capable d'écouter même un citoyen qui dit une vérité. Je veux dire, il n'y a pas question de nombre normalement, mais non.
Il y a un deuxième point essentiel qui concerne le pouvoir d'achat. Vous dites quelque chose de très émouvant dans une interview que j'ai lue, je crois que c'était sur le site Reporter. Vous dites, en fait, le mouvement Gilets jaunes a permis de lever la honte. Il a permis de permettre aux Françaises et aux Français de dire « on ne s'en sort pas ». Même avec un salaire décent de 2000 euros, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et finalement, ces rencontres au rond-point ont levé des tabous. C'est honteux de dire « bah non, j'arrive pas à faire un cadeau à mes gosses, bah non, j'ai pas assez d'argent à la fin du mois ». Et cette mise en commun a permis de lever ce tabou-là. Et j'ai l'impression que finalement, les femmes ont beaucoup aidé à lever ce voile-là, sur cette réalité-là, parce qu'elles ont peut-être plus conscience du coup que peut avoir l'éducation des enfants, la famille, les loisirs. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes ont joué un rôle spécifique dans le mouvement?
Je pense que oui, parce que c'est pas un sujet que j'ai beaucoup entendu de la part des hommes. J'ai entendu beaucoup d'hommes parler de difficultés, de volonté de retrouver du pouvoir d'achat, là où du côté des femmes, j'ai entendu beaucoup de choses dans les détails de la vie dans un foyer, de difficultés vraiment, sur quel point les difficultés se portaient, d'aller plus profondément dans le sujet. Et effectivement, je pense que ça a permis de découvrir qu'il y a, enfin, de découvrir, c'est un grand mot, parce que je pense qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, mais de pouvoir dire, ben, en fait, on n'est pas forcément fautif. Parce qu'on je pense qu'il y a aussi la culpabilité qui entre en ligne de compte. Et là, effectivement, sur les ronds-points, même dans les manifs, moi, j'ai beaucoup de mères de famille qui sont venues me dire, alors, soit qu'ils s'en sortaient, elles et leur mari, mais qui hébergeaient leurs enfants, qui étaient plus des enfants. En fait, elle me disait, on aide encore nos enfants alors qu'ils ont entre 30 et 40 ans. Et ça, à leur époque, eux partaient de chez eux à 18, 19 ans, quoi. Si c'est pas plus tôt. Et ça choque, en fait, parce que du coup, même aujourd'hui, ils sont dans la difficulté parce qu'ils aident les enfants, en fait. Donc, j'ai eu pas mal ce témoignage-là. Et puis, le témoignage de dire, bah, maintenant, j'ai, même avec le tout qui augmente à côté, et on sait pas bien ce qu'ils font avec nos sous, et d'année en année ça augmente, mais finalement ma paye que je considérais comme une bonne paye avant, bah tout part dans les factures, quoi. Le 5 du mois, j'ai plus rien. Beaucoup de et pas forcément des gens qui étaient dans la précarité. Des gens qui sont dans la précarité, j'en ai vu beaucoup, mais des gens qui sont pas dans la précarité, j'en ai vu aussi beaucoup, mais qui s'en sortent pas.
Qui ont un salaire qui peut sembler être un salaire moyen et qui en fait
non,
ne permet pas de vivre correctement.
Exactement. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose à revoir, c'est certain.
Il y a beaucoup de mères célibataires aussi, j'ai l'impression, qui ont pris la parole.
Ouais, beaucoup de mères isolées, et ça, je pense que justement, isolées, c'est encore un terme où c'était clairement, elles étaient isolées, et pas possibilité de s'exprimer, pas de possibilité de dire ce qu'elles vivent au quotidien, que dans des structures très fermées, des associations, etc., qui les aident, mais pareil, dans l'espace média, dans l'espace public, on n'en parle pas, quoi. On n'en parle jamais, et c'est des warriors. Ce sont des warriors, donc ouais, c'est encore... Et aussi les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, et aussi beaucoup de femmes. J'en ai rencontré vraiment beaucoup aussi, qui sont hyper impliquées dans le mouvement, mais derrière les vitrines, derrière Facebook, on s'en rend vraiment pas compte, qui aident, qui proposent leur aide tout le temps, qui ont des témoignages à partager, mais vraiment émouvants, quoi. Et vraiment tristes aussi, parce que en fait, on se rend compte que il y a vraiment énormément de choses qui vont pas, quoi. Et tant que ça nous touche pas personnellement, on s'en rend pas compte. Et je pense que le mouvement a permis de montrer tout ça, en fait. Et à quel point ça a transparaît dans le grand public, j'en ai aucune idée. Mais je pense que ça a au moins permis à certains de voir que, ouais, il y a vraiment des gens qui vont pas bien, quoi.
Il y a une conversation qui s'est enclenchée.
Ouais. Là-dessus, il y a une porte qui s'est ouverte pour le débat sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, quoi.
J'ai lu des récits de réunions non mixtes autour des ronds-points. Il y a pas mal de femmes qui sont organisées entre femmes pour aussi un peu, j'appelle l'autoritarisme de certains hommes dans le mouvement. Il y a même eu une marche qui a rassemblé que des femmes en janvier 2019, plusieurs centaines de femmes à Paris. Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative exclusivement féminine?
Oui, j'y suis allée plusieurs fois à Paris à ces marches. Oui, je comprends. Alors, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se sentaient exclus. Moi, j'avais eu des...
Oh, les pauvres.
En fait, il m'avait écrit genre, on comprend pas, on soutient et tout. Et en fait, là où je pense que ça a été peut-être mal compris par certains, c'est parce que justement, quand on n'est pas écouté, quand on n'est jamais écouté, qu'on est relégué au second plan, qu'il y a les inégalités hommes-femmes qui n'ont pas évolué depuis des années, en fait, et qu'on sait que c'est pas du tout un type de profil à qui on donne la parole habituellement, bah en fait, pour moi, je compare souvent le mouvement à des phares. Et bah là, ça a été les phares, le mouvement, plus un petit focus en plus, en fait. On sait très bien que ça allait pas durer éternellement de faire des marches de femmes, parce que du coup, voilà, l'idée, elle avait expliqué qu'elles étaient pas là pour diviser les gens, et etc., c'était pas le but, mais que ça permet de focaliser sur des sujets qui sont enfouis, en fait. Donc les difficultés concernent tout le monde, mais ensuite, il y a des profils types qui ont encore une somme de difficultés encore trop peu médiatisées.
Et pour qu'on les entende, faut faire taire un petit peu tout ce qui
couvre. À un moment donné, ouais. Et puis c'était pas sur les samedis, c'était les dimanches. Donc du coup, c'était pour faire écho. Le but c'était pas d'effacer ce qui se passait le samedi, mais on vient le dimanche et on montre qu'aussi en tant que femme, en tant que mère, on a des choses aussi à dire et qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements, quoi.
On met très souvent en avant le fait que vous n'ayez pas d'enfants dans vos portraits, comme si c'était une donnée importante de votre engagement. Je pense que j'ignore complètement la situation familiale, par exemple, des autres les leaders hommes des Gilets jaunes. Ça va m'amener à une question un peu bizarre, mais que toutes mes invitées doivent se coltiner. Comment vous entendez-vous avec votre utérus? Est-ce qu'il est de ski? Ah, vous l'attendiez pas, celle-là?
Ah non, là, j'étais pas prête. Ben, je m'entends très bien. On discute des fois et on se dit que l'horloge biologique avance.
Ah, ça.
Mais ça va.
Pas de pression de ce côté-là. Pas ras-le-bol d'entendre cette jeune femme de 34 ans sans enfant. C'est quand même hallucinant.
Si, c'est chiant, mais c'est même chiant dans la société en général, en fait. En dehors des médias qui se focalisent là-dessus, c'est vrai que c'est chiant. C'est toujours la question qui revient. C'est pareil, un peu comme tout ce qu'on voit et qui passe au-dessus. On se dit, c'est quelque chose où il se focalise, mais bon, ça passera, et puis ça revient, et puis ça repasse, et on s'en accommode trop. Peut-être qu'un jour, j'en verrai balader tout le monde.
Une petite pétition. Lâchez mon utérus.
C'est ça. Mais non, ça va. Je me dis que, pareil, au sein du mouvement, j'évolue beaucoup avec des hommes. Donc, trouver sa place, ça va, on va dire que je m'en sors, mais je lâche rien, je suis obligée de temps en temps de mettre autre chose qu'un utérus. J'ai des fausses couilles que je me greffe à chaque fois quand je veux me faire entendre. Donc, parce que sinon, on n'est pas forcément pris au sérieux quand on est une nana, donc c'est chiant. Donc, du coup, faut que à table, on soit traité de manière égale et donc je me fais entendre.
Bravo pour ça. Alors aujourd'hui, votre énergie, elle se concentre sur une deuxième pétition contre les violences policières que vous avez lancée avec le collectif Article 35. Une pétition qui a déjà, elle aussi, rassemblé plus d'un million de signatures, c'est ça ?
Mais en fait, je l'ai signée, moi.
D'accord.
Ouais. Et je participais au départ à la... je partageais l'initiative, je la partage toujours, le fait d'aller à la Cour pénale internationale pour dénoncer les violences policières. Et en fait, j'ai signé la pétition qui a été en fait lancée par Francis Lalanne, en réalité.
Ah bon ?
Ouais.
Mais la vidéo de 6 minutes, là, qu'il y a sur change.org, où on vous voit au
début... Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour continuer à dénoncer les violences policières, mais c'est pas en lien avec une pétition. D'accord. Ça demande quatre choses. En fait, ça demande l'arrêt de l'usage du LBD.
Et oui, mais elle est très claire, cette vidéo. Ouais. On y retrouve Assa Traoré, on y retrouve la famille de Lamine Dieng, on y retrouve en fait
acteurs,
les personnes qui défendent Rémi Fraisse. Et en fait, cette vidéo, enfin, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde aille la voir en ligne parce qu'elle est, elle est édifiante. On voit les chiffres s'aligner. Je vais en rappeler quand même quelques-uns. 578 personnes mortes en 40 ans des suites d'une intervention de police, dont 50% en banlieue. 25 personnes ont perdu un œil dans le mouvement des Gilets jaunes. 5 personnes ont perdu une main. Enfin, mais ça paraît fou, en fait. Et évidemment, vous parlez aussi de Zineb Redouane, cette vieille femme marseillaise qui est morte après avoir été touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle était à sa fenêtre en marge de la manifestation à Marseille. Enfin, je me demandais en quoi cet engagement, donc c'est pas une pétition, pardon, mais ce mouvement contre les violences policières, il était un prolongement naturel de votre lutte.
Bah parce que tout comme le mouvement a mis les lumières sur des profils beaucoup plus délaissés que d'autres et sur des dysfonctionnements, ça a aussi mis en lumière les répressions, la répression en général en fait, judiciaire, policière, en fait tout ce qui est violence d'État. En fait, je pense que ça a mis un gros focus là-dessus. Beaucoup de personnes au sein du mouvement avaient interrogé en disant mais pourquoi on voit pas beaucoup de gens qui sont issus des banlieues. Et en fait, l'explication elle a été donnée très simplement par beaucoup de personnes qui habitent dans ces banlieues en disant « Mais en fait, nous, ça se passe tout le temps comme ça. » Donc, on le dénonce depuis des années, on n'est pas entendu. Donc là, en fait, vous apprenez ce qu'on sait déjà, en fait. Et du coup, moi, bah, pour y avoir vécu, pour avoir vu plein de choses, c'est tout naturel. C'est tout naturel. Et je me dis, bah, si on est dans une ère où on dénonce les choses, bah, c'est le moment ou jamais. Parce qu'on n'aura peut-être pas de deuxième chance, entre guillemets, d'avoir autant de visibilité pour dénoncer ce que des collectifs et des assos essaient de faire depuis longtemps, quoi. Donc, pourquoi pas?
Donc là, il y a quand même un exercice assez virtuose qui a été fait, c'est-à-dire d'arriver à réunir, voilà, Assa Traoré, elle mène un combat qui concerne vraiment les violences policières contre les personnes, les hommes noirs en particulier. Et d'un autre côté, il y a les Gilets jaunes, on a l'impression que la problématique est complètement autre, et d'avoir réussi à rassembler ces deux luttes-là pour dire c'est le même problème, en fait, ça, c'est quand même c'est magnifique d'avoir réussi à le faire. C'est pas évident, quoi.
Ouais, c'est pas évident et c'était important de le faire pour moi parce que justement, la cible est la même. Les responsables sont les mêmes. Voilà, c'est ça que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est que les responsables sont les mêmes et qu'on devrait faire front commun pour les dénoncer. Parce que à vouloir faire croire aux gens que ce sont des problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ben non, en fait, c'est le contexte qui est pas le même. Mais les personnes qui prennent les décisions d'employer la force, de continuer à utiliser le LBD alors que ça fait, il y a très peu de pays qui l'utilisent.
Donc les lanceurs de balles de défense.
Ouais, les lanceurs de balles de défense. D'ailleurs, même il y a des parlementaires suisses qui demandent d'arrêter l'exportation parce que ce sont les Suisses qui nous fournissent. Donc il y a un sujet, quoi. Il y a un sujet, au bout d'un moment, il faut que les gens sachent que les responsables sont les mêmes. Et le fait que ça se passe dans un autre contexte, malheureusement, ça rend crédible la chose qui est dénoncée depuis longtemps ailleurs, en fait. Parce que lorsque c'est un seul type de profil qui dénonce certaines choses, il y a même des gens qui sont capables de remettre en question, en fait, en disant « oui, mais vous êtes toujours en train de vous plaindre ». Et là, on a pu voir en très peu de temps la force qu'ils ont déployée pour le mouvement. C'est que vraiment, c'est une méthode qu'ils utilisent pour faire taire les gens, pour les étouffer, en fait, pour qu'ils s'expriment pas davantage. Donc, et c'est ça qu'il faut essayer de faire collectivement et de montrer que non, on n'est pas opposés, au contraire. Faut qu'ensemble, on soit capable de dire que ça suffit, quoi.
D'ailleurs, il y a eu un épisode de violence policière assez angoissant. Je crois que c'était en septembre, quand vous avez fait un appel à la convergence entre la marche pour le climat. Vous avez fait un appel avec Cyril Dion dans Le Parisien en disant, voilà, Gilets jaunes et écolo, tous dans le même bain. À peine la manifestation avait commencé. Enfin, elle n'avait même pas débuté, en fait. La répression policière avait déjà commencé parce que Gilets jaunes, parce que... Comment ça s'est passé, en fait?
Déjà, dès le matin, ça a été hyper compliqué. C'est-à-dire que ils ont vraiment empêché toute la matinée que les Gilets jaunes se réunissent avec les associations de défense du climat. Je me souviens d'Attaque qui m'avait contacté pour me dire que c'était très difficile d'accéder au lieu qui était prévu. Et le lieu avait déjà été refusé, en fait, par l'état-major, parce qu'il voulait pas, alors que c'est censé être déclaré et tout, hein. Donc pour moi, il y avait une vraie volonté de faire en sorte que les deux ne se réunissent pas, même dans un cadre légal, quoi. Donc ça, c'est encore plus fort. Parce que avant, je me souviens, entre novembre et décembre, ils nous reprochaient beaucoup de pas déclarer, et nous, on était dans la désobéissance civile pure, on voulait pas du tout. Et ils nous ont beaucoup reproché ça en disant, mais vous êtes dans l'illégalité, et ça faisait peur au grand public de dire, voilà, on est dans l'illégalité, respecte rien, etc. Mais même dans le cadre légal, ils acceptent pas. Donc ça prouve que là, c'est eux qui sont contre ce qui est en train de se passer. Parce que quel intérêt ? C'est un truc statique en plus. Donc il y avait
c'était
pas.
C'était un rassemblement, c'était même pas une marche.
Ouais, c'était un rassemblement le matin. La marche commençait en fait l'après-midi plus tard, mais le matin, c'était un statique. Et même ça, ils l'ont refusé. Donc tout, moi, je me souviens que à cette période-là, beaucoup de personnes m'écrivaient pour me dire, mais en fait, ils ont tout refusé, on pourra pas y aller, etc. Donc l'idée, c'était quand même d'essayer d'y aller, mais ils ne laissaient pas accéder à l'endroit. Donc tout le monde après a erré un peu dans Paris jusqu'au début de la prochaine marche, quoi. Mais ça démontre que ouais, ils veulent pas. Ils veulent pas que ces mouvements-là se réunissent parce que c'est la force de l'union en fait leur fait peur, je pense. Les dérange plutôt.
Mmh. En tout cas, vous avez apparemment une faculté à la créer, cette union, donc s'il vous plaît, lâchez pas. Ça serait cool qu'on y arrive.
Ça serait cool, vraiment.
Ouais. Vous avez fait le tour de la France des ronds-points. Vous avez rencontré des Françaises et des Français un peu partout, du Nord à Marseille, en passant par Bourges. Qu'est-ce que vous avez appris en une phrase, si c'est possible ?
La souffrance et la colère des gens. Et le fort intérêt pour l'environnement qui les entoure. Parce que ça aussi, quand au départ on nous a dit vous êtes anti-écolo et compagnie, ben je savais que voilà c'était pas le cas, etc. Mais je l'ai encore plus constaté sur le terrain parce que en fait partout où j'allais, mais vraiment partout où j'allais, j'ai toujours rencontré des gilets jaunes qui, ben forcément ils ont une vie avant les gilets jaunes, mais qui étaient déjà engagés dans des luttes locales en fait, très locales. Dans des associations ou en collectif informel. Et il y avait toujours une dimension environnementale dans leur lutte. C'est-à-dire que je rencontre des personnes qui sont du côté de l'Alsace qui œuvrent pour que soient déterrés les déchets. Parce que ça les contamine, mais ça les contamine aussi sur les deux autres pays frontaliers. Donc ils vont essayer de faire quelque chose. Mais en fait, c'est encore quelque chose à dimension environnementale. Dans le sud, c'était contre le rejet de CO2, parce qu'ils s'achètent, enfin, ils ont un peu du trafic de permis, parce qu'ils ont des permis pour faire des rejets, mais ils se revendent les permis entre eux pour pouvoir rejeter plus. Donc en fait, les gens, ils sont extrêmement malades. Il y avait une amie à moi dans le sud qui disait que sur le rond-point, il y avait au moins 80% des personnes qui avaient des maladies de longue durée, dues à ce qu'ils respiraient. D'autres, du côté de Carcassonne, qui sont contaminés à l'arsenic et qui luttent contre ça aussi. Et en fait, partout où je vais, il y a toujours une dimension environnementale dans les luttes qui étaient déjà engagées par les personnes, en fait, qui sont entrées dans le mouvement. Donc, ils sont très concernés par l'environnement qui les entoure. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué, quoi. Ils sont en colère par rapport au fait qu'ils ne soient pas entendus. Il y en a même qui sont intimidés, parce que du coup, ce sont des lanceurs d'alerte. Mais voilà, ils sont isolés. Et d'aller chercher sur le terrain comme ça dans les départements, ça m'a permis de voir ça, ouais. Donc ça m'étonne pas qu'ils soient dans le mouvement en fait, hein. Forcément, parce que au-delà de tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés personnellement, ils sont déjà en lutte, quoi, continuellement. Mais ils ont pas de poids, tout simplement. Donc ouais, c'est beaucoup de colère, de souffrance et puis de lutte pour rester dans un environnement sain en fait au final.
Et un grand isolement, quoi.
Ouais.
Bon, ça fait un an que vous travaillez sans relâche. Vous avez produit, je sais pas combien de textes, de vidéos, d'apparitions télé, de tours de France. Est-ce que vous avez des instants pour vous retrouver dans votre chambre à vous ?
Des fois. Non, enfin, jusque juin, j'avais vraiment pas de vie. Jusque juin, mon appart, c'était vraiment un hôtel. je dormais, je repartais. Ils me voyaient en coup de vent. Et après, j'ai levé un peu le pied en juin pour essayer de profiter de ma famille. Parce que je les ai beaucoup délaissés pendant tout ce temps, même s'ils me soutiennent et qu'ils viennent en manif avec moi et qu'ils ont des actions avec moi et tout. Mais donc voilà, j'ai voulu prendre quand même du temps pour moi aussi parce que très fatigué et voilà, j'ai été un peu moins dans l'action ces derniers temps, ouais. Après, j'ai beaucoup de débats, beaucoup de conférences, beaucoup de colloques, pas mal de choses comme ça, d'interviews et compagnie. Donc ouais, c'est encore autre chose, hein, entre le début du mouvement et maintenant, c'est une autre d'autres types d'actions, quoi.
Avant que ça reparte.
Ouais, on verra. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Les gens mettent beaucoup de sous aussi dans les déplacements, donc mais bon, ça m'étonne pas. Hein. Tout a été fait pour nous fatiguer aussi. Hein. Donc c'est normal au bout d'un moment que les gens se retrouvent et donnent un peu de temps à leur famille.
Ça vous évoque quoi quand je vous dis la poudre ?
Ben, j'ai beaucoup réfléchi, en fait. En fait, vous êtes les premières personnes que je rencontre où, avant de venir, je me dis, mais pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Voilà, exactement, vraiment. Déjà, quand on a eu la première prise de contact, je me suis posé la question. Et puis, en venant, je me suis reposé la question. J'ai dit, mais quand même, je sais. Moi, ça m'évoque forcément le maquillage. Je sais pas pourquoi. tout de suite, comme ça, d'emblée, ça m'évoque le maquillage. Vaut mieux ça que la drogue. Mais tout de suite, le maquillage. Voilà, je sais pas si je tape dans le mille ou pas du tout, mais ce serait trop évident et trop facile si c'était le maquillage.
C'est comme on veut, il n'y a pas de bonne réponse. Merci beaucoup, Priscilla.
Merci à vous.
Merci à Priscilla Ludowski d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré à l'hôtel Belleval, dans le 8e arrondissement, à Paris. Ceci grâce à dayuse.com, un site qui permet de réserver des chambres d'hôtel en journée. Fallait y penser. Merci à Dayuse pour ses inspirants refuges.